Si vous cherchez en ligne des conseils sur la façon de faire une entrée remarquée, vous pouvez trouver toutes sortes d'idées. Ils recommandent de choisir la bonne tenue qui attirera l'attention de tout le monde. Ils disent d'arriver en retard, mais pas trop tard. Et ils ajoutent que si vous voulez vraiment faire une grande entrée, vous devez arriver avec style. Ils recommandent d'arriver dans une voiture voyante, comme une Lamborghini, ou une limousine, ou, si vous en avez les moyens, même d'arriver en hélicoptère. S'il vous plaît, levez la main si vous avez déjà fait une entrée remarquée en arrivant en hélicoptère. Mais sur la liste des façons de faire une entrée incroyable, il y a un moyen de transport que je n'ai pas trouvé. Il y avait une manière d'arriver qu'ils n'ont jamais recommandée. Ils n'ont jamais dit « Si vous voulez faire une entrée inoubliable, alors arrivez à Dodan ». Ils n'ont jamais mentionné d'entrée à Dodan. Et pourtant, chaque année en ce jour, nous nous souvenons de quelqu'un qui est arrivé en ville, à Dodan. 2000 ans plus tard, nous parlons encore de cette entrée. Eh bien, si vous avez une Bible, veuillez l'ouvrir avec moi à Zacharie 9. Pour ceux d'entre vous qui ont une Bible physique, pouvez-vous lever la main une fois que vous l'avez trouvée? Voyons qui la trouve en premier. Il n'y a pas beaucoup de sermons prêchés sur le livre de Zacharie. Nous faisons une pause dans notre étude des Éphésiens pour la célébration de Pâques, mais nous la reprendrons dans quelque temps. Allons donc à Zacharie 9. Permettez-moi d'abord de vous donner un peu de contexte. Le ministère du prophète Zacharie a eu lieu après la période d'exil d'Israël à Babylone. Après l'exil, ils sont revenus pour reconstruire ce qui avait été détruit, en particulier le temple. Au début, le peuple était enthousiaste, mais après 20 ans, il s'est découragé. Ils avaient posé les fondations du temple, mais ensuite de l'opposition est survenue, et les travaux se sont arrêtés. Les 8 premiers chapitres de Zacharie contiennent des visions que Dieu a données aux prophètes pour encourager le peuple, afin qu'ils sachent que le Seigneur était avec eux et que Dieu achèverait l'œuvre qui avait été commencée. Au chapitre 3, un ange du Seigneur mentionne une branche qui viendra de la lignée du roi David. Voyez-vous, l'une des raisons pour lesquelles Israël a été exilé était à cause d'une mauvaise gouvernance. Il y avait une longue lignée de rois, pour la plupart mauvais. Dieu avait promis à David qu'à travers lui, il y aurait un royaume éternel. Mais lorsque vous lisez les premiers et deuxièmes livres des Chroniques, ou les premiers et deuxièmes livres des rois, vous lisez l'histoire de rois pour la plupart mauvais. Ainsi, après avoir parlé des visions et de la reconstruction du temple, au chapitre 9 de Zacharie, le sujet change. Au début du chapitre, nous lisons le jugement à venir de Dieu contre les nations voisines qui étaient contre Israël. Puis, à partir du verset 9, nous lisons au sujet d'un nouveau roi qui vient pour la nation. 9:9. Réjouis-toi grandement, fille de Sion. Pousse des acclamations, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Comme je l'ai dit, à cette époque, le peuple de Dieu était déçu et désabusé. Ils avaient été exilés et la reconstruction prenait plus de temps que prévu. Ils étaient fatigués des mauvais rois, des dirigeants qui les décevaient continuellement et les éloignaient de Dieu. Mais Zacharie arrive et dit que leur deuil se changera en danse, qu'un temps viendra où leur déception se transformera en réjouissance, un temps où leurs plaintes deviendront des cris de louange. Pourquoi? Parce qu'un roi d'un autre genre arrive. Ce roi n'est pas corrompu. Ce roi n'est pas mauvais. Ce roi n'est pas pécheur. Non, ce roi est juste. Ce roi est bon. Ce roi apporte le salut. Il vient pour sauver les gens, non pour les égarer. Il n'est pas orgueilleux, lisons-nous. Au contraire, il est humble. Comment savons-nous qu'il est humble? Son moyen de transport, Il n'arrive pas en Lamborghini, ni en limousine, ni même en hélicoptère. Il entre sur un âne. Pourquoi un âne? 10. Je supprimerai les chars d'Éphraïm et les chevaux de guerre de Jérusalem. L'arc de guerre sera aussi supprimé. Et il annoncera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. L'âne est un choix délibéré. Le verset 10 dit qu'au lieu d'un cheval de guerre, ce roi viendra sur un âne.
À l'époque, lorsqu'un roi entrait sur un cheval de guerre, cela signifiait qu'il allait y avoir une bataille. Cela signifiait qu'il y aurait la guerre. Mais le verset 10 dit « Plus de chars, plus de chevaux de guerre, l'arc de guerre sera supprimé. » Ce roi ne vient pas amener la guerre en arrivant sur un cheval de guerre. Non, ce roi arrive sur un âne, qui était un symbole de paix. Et ce roi, dit le verset 10, annoncera la paix aux nations, et sa domination s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre. Quelle parole d'espoir pour les gens découragés et désabusés de l'époque. Je suis certain que pour certains d'entre eux, c'était difficile à croire. Ils connaissaient l'histoire. Cela n'avait été quasiment que mauvais roi, après mauvais roi, après mauvais roi. Ce n'était que guerre et effusion de sang. Il n'y avait eu que des pleurs. Pas de réjouissance. Et maintenant, Zacharie parle d'un roi juste et humble, qui vient en paix pour sauver le peuple. Zacharie parle d'un roi qui ne décevra pas, un roi qui ne les abandonnera pas. Peut-être, savez-vous comment le peuple d'Israël se sentait à cette époque? Lorsque vous regardez en arrière sur votre vie, vous voyez beaucoup de bouleversements et beaucoup de déceptions. Des personnes vous ont laissé tomber. Des dirigeants vous ont laissé tomber. Les choses que vous vous attendiez à voir arriver ne se produisent pas, tout comme la lenteur de la reconstruction du temple à ce moment-là. Lorsque vous regardez en arrière, il n'y a pas eu beaucoup de réjouissance, il y a eu beaucoup plus de pleurs, il y a eu beaucoup d'incertitudes. Vous avez placé votre confiance dans d'autres choses que vous pensiez pouvoir vous sauver. Vous pensiez qu'une certaine relation pourrait vous sauver, mais elle ne vous a apporté que déception. Vous pensez que l'argent ou le succès pourrait vous sauver, mais cela n'est jamais suffisant. Vous pensez qu'essayer de fuir vous aiderait, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Vous connaissez bien cet endroit décourageant dans lequel se trouvait Israël. Et vous avez crié, « Qui viendra me sauver? Qui viendra m'aider? Je suis fatigué des chars et des chevaux de guerre. Je veux simplement la paix. » Passons maintenant à l'évangile de Matthieu, au chapitre 21. J'imagine que la plupart d'entre vous trouveront plus facilement ce livre de la Bible. Environ 500 ans se sont écoulés, entre Zacharie 9 et Matthieu 21. C'est une longue période. Il y a eu beaucoup d'attentes, mais le vrai roi est sur le point de faire son entrée. 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya alors deux disciples, en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un âneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. » 3. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et il les laissera aller tout de suite. Jésus avait répété à ses disciples à plusieurs reprises qu'il devait aller à Jérusalem. Il leur expliquait sans cesse ce qui devait lui arriver là-bas, mais ils ne comprenaient pas pleinement la signification de tout cela, avant que tout ne soit accompli. Le verset 1 précise qu'ils ne sont pas encore à Jérusalem. Ils se trouvent à Bethphagée, sur le mont des Oliviers, qui est à 1 ou 2 kilomètres à l'extérieur de Jérusalem. Cette montagne fait environ 800 mètres de haut. Donc Jésus et ses disciples peuvent regarder en bas et voir le temple depuis l'endroit où il se trouve. Dimanche dernier soir, il y a eu le concert du Zimbabwe. C'était un moment extraordinaire. La première chanson qu'ils ont chantée
contenait les paroles « À vos marques, prêts, êtes-vous prêts pour Jérusalem ?» En regardant la ville ce jour-là depuis le mont des Oliviers, Jésus était prêt. Il savait ce qu'il attendait là-bas. Mais comme nous le voyons dans les évangiles, les disciples n'étaient pas prêts pour ce qui allait arriver à Jérusalem. Ils n'avaient aucune idée de ce que cette semaine allait apporter. Mais Jésus envoie deux d'entre eux dans un village voisin pour rapporter une ânesse et un anneau. Si quelqu'un pose des questions, ils doivent dire « le Seigneur », c'est-à-dire Jésus qui se désigne lui-même comme le Seigneur, en a besoin. Et on laissera partir les animaux. 4. Ceci est arrivé afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. 5. Dites à la fille de Sion, « Voici, ton roi vient à toi, humble, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. » Matthieu commence en citant Ésaïe 62, verset 11, lorsqu'il mentionne « la fille de Sion », qui est une autre façon de désigner Jérusalem.
Et ensuite, il cite Zacharie 9, 9, que nous avons lu plus tôt. « Voici, ton roi vient à toi, humble et juste, monté sur un âne. » Jésus n'a pas demandé l'âne et l'ânon parce qu'il était fatigué et ne pouvait plus marcher. Non, il les a demandés parce qu'il s'apprête à déclarer ouvertement qu'il est bien le roi des Juifs. Mon premier point ce matin est 1. Jésus a accompli la prophétie. Lorsque Jésus dit aux disciples « Allez chercher l'âne », il annonce l'accomplissement de la prophétie de Zacharie et d'Ésaïe. Nous avons étudié cela lors de l'étude biblique le mercredi soir. Quand on retourne dans l'Ancien Testament, on voit comment les Écritures annonçaient la venue du Messie. Souvenez-vous qu'après la résurrection, sur le chemin d'Emmaüs, Jésus a fait une étude biblique avec deux disciples. Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua ce qui dans toutes les Écritures le concernait. La loi pointait vers Jésus, les prophètes pointaient vers Jésus, et Jésus entre à Jérusalem en disant « Voici, je suis là ». Pour les personnes qui connaissaient les Écritures à cette époque, pour ceux qui connaissaient Zacharie, le fait que Jésus arrive sur un âne était plus puissant, plus stupéfiant, plus marquant que s'il était entré en Lamborghini, en limousine ou en hélicoptère. Parce que c'est une annonce. Cela dit, ce roi juste dont Zacharie a parlé il y a 500 ans, c'est moi, et je suis ici. J'aime regarder le basketball professionnel. Et dernièrement, lorsqu'un joueur réussit une action spectaculaire, généralement un dunk ou un tir lointain, il célèbre en pointant son doigt sur sa poitrine et en disant « C'est moi ». C'est une façon de dire « Je suis celui-là ». Je suis l'élu, il n'y a personne d'autre, c'est moi. Jésus n'a pas eu besoin de crier. Jésus n'a pas eu besoin de montrer sa poitrine du doigt. Tout ce que Jésus avait à faire, c'était de demander aux disciples de lui amener un âne. C'était une annonce. Jésus accomplissait toutes les prophéties qu'il avait précédées. Jésus disait, « Ce roi juste venu pour sauver son peuple et apporter la paix, c'est moi. » 6. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. 7. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Les disciples suivent les instructions de Jésus, prennent les animaux, et Jésus s'assied sur eux. Parfois, les rois entraient effectivement dans leur ville sur un âne, mais seulement en temps de paix. L'âne était un symbole de paix. Il est tout à fait possible que beaucoup de personnes dans la foule aient vu les miracles de Jésus et s'attendaient à ce qu'il restaure Israël dans sa gloire d'antan. Rappelez-vous, cela se passe à l'époque de l'Empire romain. Et bien qu'Israël soit autorisé à fonctionner comme son propre pays au sein de l'Empire, certains, dans la foule, pensaient peut-être que Jésus serait leur messie politique. Un roi qui renverserait l'Empire romain.
Un roi capable de vaincre les ennemis et de gagner des guerres. Un roi qui pourrait leur donner la liberté politique. Mais au lieu de cela, Jésus arrive en ville sur un âne, un symbole de paix, comme pour dire, « Je ne suis pas votre messie politique, je suis le prince de la paix. » Jésus n'est pas venu pour une liberté politique, il est venu pour une liberté spirituelle, pour libérer les gens de l'esclavage du péché et leur permettre de vivre la vie éternelle à travers lui. Mon deuxième point ce matin est 2. Jésus comble les désirs les plus profonds de votre cœur. En tant qu'être humain, nous aspirons à la paix. Par-dessus tout, que vous en soyez conscient ou non, nous aspirons à la paix avec Dieu. Non seulement le péché nous sépare de Dieu, mais il n'y a aucune paix dans le péché. Le péché peut procurer du plaisir sur le moment, mais il est misérable d'y vivre. Ce n'est pas paisible. C'est rempli de tumulte, de conflits, d'angoisse et de lutte. Imaginez maintenant un cœur rempli de tout cela. Péché, combat, absence de repos, pas de joie, haine, jalousie, toute cette saleté. Et imaginez simplement Jésus, assis sur un âne, voulant entrer dans votre cœur, voulant apporter la paix au chaos de votre vie, voulant vous libérer de l'esclavage du péché. Jésus est venu dans ce monde pour te libérer de tout cela. Tout ce à quoi nous penserons cette semaine, Jésus trahi par l'un de ses disciples, accusé de fausses accusations, condamné à mort, moqué et bafoué, battu et finalement cloué sur la croix. Tout cela, Jésus l'a enduré afin de pouvoir te libérer, afin qu'il puisse établir la paix entre toi et Dieu. Et c'est cette paix que nos cœurs désirent le plus. Parfois, au cours de cette semaine, nous voulons aller directement à la résurrection, et bien sûr, nous célébrons le fait que Jésus est ressuscité. Mais je pense qu'il est important de ralentir, de lire sur le chemin de la croix pour Jésus. Parce que je crois que lorsque nous voyons la profondeur de la douleur et de la souffrance de Jésus, nous comprenons d'une manière plus profonde l'amour immense que Dieu a pour nous. Ce n'est pas une grâce à bon marché. C'est une grâce qui coûte cher. Le Fils de Dieu, s'humiliant lui-même, entrant dans sa ville sur un âne, et devenant finalement obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur une croix. Amour étonnant, comment cela se peut-il? Que toi, mon roi, tu meurs pour moi. Amour étonnant, je sais que c'est vrai, et c'est ma joie de t'honorer. La plupart de la foule étendit leurs manteaux sur le chemin, et d'autres coupèrent des branches d'arbres et les étendirent sur la route. Et les foules qui le précédaient et celles qui le suivaient criaient « Hosanna, au fils de David !»« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !»« Hosanna, dans les lieux très hauts !» Pourquoi appelons-nous cela le dimanche des rameaux? Parce que la foule a coupé des branches de palmiers des arbres et les a étendues sur la route. Nous savons qu'il s'agissait de branches de palmiers grâce à l'évangile de Jean. Les branches de palmiers symbolisaient généralement la bonté et la victoire. Encore une fois, la foule pouvait s'attendre à ce que Jésus soit leur messie politique. Quoi qu'il en soit, la scène est incroyable. Tu peux imaginer Jésus arrivant sur un âne, au milieu de la foule, tandis qu'il chante des louanges. D'abord, ils disent « Hosanna au fils de David ». Le mot « Hosanna » était à l'origine un cri à l'aide signifiant « sauve ». Mais à cette époque, il signifiait « louange ». Ainsi, ils adressent des louanges au fils de David. Encore une fois, cela a une grande signification, car David était le premier roi d'Israël, et Dieu avait promis à David un royaume à travers sa descendance. La foule reconnaît que Jésus est le roi promis, dans la lignée de David. La foule dit aussi « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », ce qui est également une citation d'une prophétie de l'Ancien Testament. Il s'agit d'une prophétie tirée du psaume 118, qui parlait aussi du Messie à venir.
Encore une fois, Jésus accomplit toutes les prophéties de l'Ancien Testament.
Si vous lisez cette histoire dans l'Évangile de Luc, lorsque les foules ont commencé à dire cela, cela a mis les pharisiens en colère. Ils pensaient que les foules commettaient un blasphème en citant ce psaume. Ils pensaient que les foules en disaient trop, et ils ont donc dit à Jésus, « Réprimande tes disciples. » Mais Jésus répondit, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » En d'autres termes, il n'y avait aucun moyen d'arrêter ce qui se passait. Il n'y avait aucun moyen d'empêcher ces gens de louer Dieu en chair et en os. C'était imparable. La foule recevait son roi. La foule disait « Hosanna dans les lieux très hauts », ce qui revient à dire « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». Ils adoraient le roi Jésus. Dans la suite de l'Évangile selon Matthieu, nous voyons que certaines personnes ont reçu Jésus comme leur roi, et d'autres l'ont rejeté comme roi. Certains l'adoraient, et d'autres se moquaient de lui. Permettez-moi de vous poser cette question ce matin. Avez-vous reçu Jésus comme roi? Il ne fait aucun doute que Jésus est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Toute autorité dans le ciel et sur la terre lui a été donnée. Mais est-il le roi de votre vie? Est-il le roi de votre cœur? Lorsque vient le moment de prendre une décision importante dans votre vie, priez-vous et demandez-vous que sa volonté soit faite? En ce qui concerne la façon dont vous vivez votre vie, l'écoutez-vous et le suivez-vous? Ou bien faites-vous simplement ce que vous voulez faire? Il peut être facile de recevoir Jésus comme un enseignant. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour penser que Jésus était un grand enseignant. D'autres religions adhèrent à certains des enseignements de Jésus. Il peut être facile de recevoir Jésus comme un enseignant. Mais c'est une toute autre chose de recevoir Jésus comme votre roi, de lui demander d'être le Seigneur de votre vie, de se soumettre à lui et de lui obéir. Et cela pourrait être difficile s'il était un mauvais roi. Mais nous savons qu'il n'est pas du tout un mauvais roi. Il est un bon roi. Il est le bon berger. Il nous conduit dans de bons endroits. Il est plein d'amour et de miséricorde. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il dit, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Il est le bon berger. Il est la lumière du monde. Il est le pain de vie. Il est le bon roi. Mais l'avez-vous accepté comme le roi de votre vie? Le chant qui monte dans votre cœur est-il « Hosanna dans les lieux très hauts » Et si vous l'avez accepté comme roi, s'il est le Seigneur de votre vie, y a-t-il en ce moment des domaines de votre vie où vous essayez d'être le roi? Y a-t-il une situation ou un problème dans votre vie que vous essayez de contrôler, au lieu de le confier à Dieu? Qui commande? Qui est au contrôle? Les foules dans Matthieu 21 nous donnent cette belle image de poser leurs branches sur le sol alors que Jésus entre. Y a-t-il quelque chose dans votre vie aujourd'hui que vous avez besoin de déposer devant votre roi? Y a-t-il des parties de votre cœur dans lesquelles Jésus doit entrer et guérir? Que Jésus veut purifier? Dans le reste du chapitre 21, Jésus entre dans le temple et le nettoie. Le temple était devenu un marché au lieu d'une maison de prière et d'adoration. Alors Jésus renverse les tables et chasse les personnes qui achetaient et vendaient là. Le temple était devenu quelque chose qu'il n'avait jamais été destiné à être. Alors Jésus l'a nettoyé. Il a retiré ce qui était mauvais afin de le restaurer comme il devait être. Et il veut faire la même chose dans nos cœurs, afin que nous puissions devenir plus semblables à lui et marcher dans ses voies. Voici votre roi. Adorez votre roi. Servez votre roi. Et lorsqu'il entra à Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Et l'on disait, « Qui est celui-ci ? » Et les foules répondaient, « C'est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. » Jésus entre enfin à Jérusalem, et il y a eu tant d'agitation, tant de bruit à l'extérieur de la ville, que Jérusalem est bouleversée, et il demande « Qui est celui-ci ? » Or, ce n'était pas la première visite de Jésus à Jérusalem. Il y était allé plusieurs fois. Peut-être que certaines personnes ne savaient pas qui il était, mais je pense qu'il demande « Qui est celui-ci ? » comme pour dire « Qu'y a-t-il de si extraordinaire chez cet homme ? Pourquoi tout le monde est-il si enthousiasmé ?» Et les foules répondent « C'est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. » Le roi est arrivé, et en dehors de Jérusalem, il est accueilli comme un roi. Pas un roi de violence ou de guerre, mais un roi de paix, qui est venu réconcilier Dieu et les hommes. Mais lorsqu'il entre à Jérusalem, nous savons qu'il ne sera finalement pas accueilli avec paix.
Les chefs religieux commencèrent à chercher un moyen d'arrêter Jésus et de le faire mourir. L'un de ses propres disciples, Judas, l'a trahi pour de l'argent. Tous ces événements menèrent à sa crucifixion sur la croix. Mais cela n'a pas surpris Jésus. Il avait annoncé à ses disciples que cela arriverait. Il leur avait dit qu'il devait aller à Jérusalem. Mais cela restait une surprise pour les foules et les disciples. Qu'est-il arrivé au grand Messie, leur roi politique? Il était maintenant mort. Ils ne comprenaient pas que le Messie, l'élu, serait aussi le serviteur souffrant. Mais en tant que croyants, nous savons que ce n'est pas la fin de l'histoire. Mon dernier point ce matin, 3. Jésus continue d'accomplir les prophéties. Mon premier point était que Jésus a accompli une prophétie de l'Ancien Testament, en particulier celle de Zacharie 9 que nous avons lue aujourd'hui. Mais Jésus accomplira aussi ce que les prophéties du Nouveau Testament annoncent. Regardez avec moi la vision de Jean, dans l'Apocalypse, chapitre 19, versets 11 à 16. « Alors, je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Sur sa tête, il y a de nombreux diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît, si ce n'est lui-même. Il est revêtu d'un vêtement trempé de sang, et son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin, blanc et pur. De sa bouche sort une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. » Cette fois, Jésus ne monte pas un âne. Il monte un cheval blanc, la couleur de la victoire. Lorsque le Christ reviendra, il viendra avec puissance pour juger. Et sur son manteau et sur sa cuisse est écrit « Le roi des rois et seigneur des seigneurs. » Jésus est le roi humble, mais ne vous y trompez pas. Il est aussi le roi tout-puissant. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'empreinte exacte de sa nature. Il soutient l'univers par sa parole puissante. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par lui. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra, même s'il meurt. Qui est le roi de gloire? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. Il est venu, et il reviendra, avec puissance, avec gloire. Nous serons au ciel avec lui. Il n'y aura plus de mort, plus de maladie, plus de déception. Il nous a sauvés de tout cela. Il a rétabli la paix entre nous et Dieu. L'âne a servi à son dessein ce jour-là. L'âne a accompli son travail. Mais la prochaine fois, ce sera le cheval blanc de la victoire. Amen. Invitation. Je vais demander à l'équipe de louanges de s'avancer et de nous conduire dans un chant de réponse à la parole de Dieu. Et dans un instant, nous allons avoir un moment d'invitation. C'est un moment où vous êtes invité à vous avancer et à dire à quelqu'un à haute voix ce que Dieu fait dans votre cœur. Alors si Dieu agit en vous ce matin, nous voulons vous aider. Ce moment est une opportunité de répondre à ce que le Saint-Esprit vous pousse à faire. Peut-être que ce matin vous réalisez que vous n'avez pas encore accepté Jésus comme le roi de votre vie. Si ce matin Dieu vous conduit à vous détourner de vos péchés et à faire confiance à Jésus-Christ comme votre Sauveur, je vous invite à vous avancer. Peut-être que ce matin vous avez compris qu'il y a des domaines de votre vie où Jésus n'est pas roi, des parties de votre vie que Jésus veut purifier, tout comme il a purifié le temple ce jour-là. Si Dieu vous conduit à la repentance, j'aimerais prier avec vous. Cependant, quelle que soit la manière dont Dieu vous conduit, je serai ici à l'avant pour vous accueillir lorsque vous viendrez. Prions. Fin du serment.